Le commandant de la marine de la République islamique d'Iran, le contre-amiral Shahram Irani, a déclaré que la production de croiseurs de combat lourds et la formation de groupes de travail naval composés de 11 navires pour des missions dans les eaux internationales étaient les priorités de la marine. Lors d'une réunion axée sur les missions navales, M. Irani a indiqué que la marine iranienne a considérablement développé ses capacités et son pouvoir de dissuasion. Ces missions ne sont plus restreintes à une région spécifique, mais s'étendent à toutes les zones navigables dans le monde. Nous sommes en mesure d'accéder à n'importe quel point des eaux internationales. Pour reprendre les propos de l'ayatollah Sayyed Ali Khamenei, le commandant en chef des forces armées iraniennes, la marine nationale représente une force stratégique, a-t-il fait savoir. La marine iranienne emploie des ingénieurs et des experts locaux. La construction de croiseurs de combat lourds est à son ordre du jour, conformément à une feuille de route définie par l'ayatollah Khamenei. La marine iranienne a concentré ses activités dans le 10e parallèle nord et la mer Rouge. Elle escorte les navires de commerce et les pétroliers iraniens dans la mer Rouge et le détroit d'Ormuz. La création d'unités navales dédiées aux drones aériens embarqués, le développement de navires de reconnaissance et de navires de guerre électroniques, le renforcement de la puissance de combat, la mise à jour des compétences des équipes tactiques font partie des projets prioritaires de la marine iranienne. Aujourd'hui, le nord de l'océan Indien est une voie navigable majeure qui relie les continents. Si notre flotte n'a pas une présence effective, des États se permettront d'entrer illégalement dans la région et de s'approcher de nos eaux territoriales, a précisé le commandant de la marine iranienne. La Lituanie propose de former une coalition navale anti-russe. La Lituanie a proposé l'idée de mettre en place une coalition navale de volontaires pour briser le blocus imposé par la marine russe aux ports ukrainiens. Son ministre des Affaires étrangères, Gabrielius Lanceberges, en a discuté avec Liz Truss, son homologue britannique, à l'occasion d'un déplacement à Londres le 23 mai. Le temps est très très court, nous approchons d'une nouvelle récolte et il n'y a pas d'autre moyen pratique d'exporter le grain que par le port d'Odessa, a fait valoir M. Lanceberges dans les colonnes du quotidien The Guardian. Il n'y a aucun moyen de stocker ce grain et aucun autre itinéraire alternatif adéquat. Il est impératif que nous montrions aux pays vulnérables que nous sommes prêts à prendre les mesures nécessaires pour nourrir le monde, a-t-il ajouté. Dans le détail, le plan proposé par Vilnius consisterait à escorter les navires aux céréaliers lors de leur traversée de la mer Noire pour se rendre à Odessa. Cette opération décrite comme humanitaire ne serait évidemment pas conduite sous la bannière de l'OTAN. Ce serait une mission humanitaire qui ne serait pas comparable à une zone d'exclusion aérienne des navires ou des avions militaires, voire les deux, seraient utilisés pour garantir que les chargements de céréales puissent quitter Odessa en toute sécurité et atteindre le Bosphore sans intervention russe. Nous aurions besoin d'une coalition de volontaires des pays dotés d'une puissance navale importante pour protéger les voies de navigation, a détaillé le ministre lituanien. A priori, le Royaume-Uni serait ouvert à cette idée, poussée par Vilnius, idée qui serait compliquée à mettre en œuvre compte tenu de la présence éventuelle de mines mouillées dans le secteur d'Odessa par la marine russe, du risque élevé de dérapage, sachant que par le passé, des navires occidentaux ont été intimidés en mer Noire et de la Convention de Montreux, qui s'applique au détroit turc qu'Ankara a fermé aux navires de guerre en mars dernier, selon OPEX 360. Ce que nous devons faire, c'est traiter ce problème de sécurité alimentaire mondiale et le Royaume-Uni travaille sur une solution urgente pour faire sortir le grain de l'Ukraine, a cependant fait valoir Mme Truss. Pour le moment, la solution passe par la livraison de missiles antinavires aux forces ukrainiennes afin de permettre à celles-ci de tenir les navires militaires russes à distance, écrit OPEX. D'où l'annonce faite le 23 mai par Lloyd Austin, le chef du Pentagone, lequel a d'ailleurs brûlé la politesse à son homologue danois. En effet, à l'issue d'une réunion virtuelle du groupe de contact ukrainien dirigé par les États-Unis et qui compte une quarantaine de pays, M. Austin a annoncé que le Copenhague donnerait à Kiev des batteries de défense côtière armées de missiles RGM-84. Je suis particulièrement reconnaissant au Danemark qui a annoncé aujourd'hui qu'il fournirait des missiles Harpoon pour aider l'Ukraine à défendre ses côtes, a-t-il dit. Faut-il comprendre que les forces ukrainiennes ont déjà épuisé leur stock de missiles P-360 Neptune, dont deux exemplaires coulèrent le croiseur russe Moskva, interroge OPEX. La Russie poursuivra son opération en Ukraine jusqu'à ce que tous les objectifs soient remplis. Le ministre russe de la Défense a martelé que son pays poursuivrait son opération militaire en Ukraine jusqu'à remplir tous ses objectifs. Fin février, Moscou avait justifié cette offensive par le désarmement et la dénazification de l'Ukraine. Malgré une importante aide occidentale au régime de Kiev et la pression des sanctions sur la Russie, nous poursuivrons l'opération militaire spéciale jusqu'à ce que tous les objectifs soient remplis, 3 mois jour pour jour après le lancement de l'offensive militaire en Ukraine. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a exprimé la détermination de son pays à atteindre les buts de cette opération. La Russie a été forcée de lancer une opération militaire spéciale afin de protéger la population contre le génocide, ainsi que la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine, garantissant son statut dénucléarisé et notre a fait valoir le membre du gouvernement russe, qui tenait un discours lors d'une réunion du Conseil des ministres de la Défense de l'Organisation du traité de sécurité collective ce 24 mai. Le ministre de la Défense a également fustigé à cette occasion l'Occident en raison des livraisons d'armes létales aux autorités ukrainiennes et de la passivité des nations occidentales. Selon lui, face aux exactions qui auraient été commises sur des soldats russes, de nombreux faits de torture et de meurtres brutaux de prisonniers de guerre russes sont connus. Et ce n'est pas caché, cependant, l'Occident refuse de reconnaître ces faits. Les pays dits civilisés ne seulement nient l'existence du néonazisme en Ukraine, mais accueillent également avec les honneurs des représentants d'unités nazies impliquées dans des atrocités sanglantes, a accusé Sergueï Choïgou, pointant aussi du doigt la mobilisation de conseillers militaires aux côtés de Kiev. Depuis le début de son offensive, la Russie a mis en garde à de nombreuses reprises les Occidentaux contre toute intervention dans ce conflit, dénonçant en particulier les livraisons d'armement à Kiev. Pour rappel, la Russie a lancé son opération militaire spéciale en Ukraine le 24 février 2022. Selon le président russe Vladimir Poutine, cette offensive vise à démilitariser et dénazifier l'Ukraine et à porter secours aux républiques autoproclamées du Donbass reconnues par Moscou, dont les populations seraient menacées de génocide. Kiev et les Occidentaux, de leur côté, dénoncent une guerre d'invasion et ont multiplié les sanctions anti-russes. Dès le 2 mars, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution qui exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. La défense russe a affirmé à de nombreuses reprises ne pas cibler les populations civiles. Pour autant, le 12 mai, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a demandé à la Commission internationale de l'ONU d'enquêter sur des exactions attribuées aux militaires russes en Ukraine. Les autorités russes et ukrainiennes se sont assises à la table des négociations à plusieurs reprises depuis fin février pour mettre fin au conflit. Mais c'est pour parler se trouve actuellement dans l'impasse. Le nouveau NAM. J'appelle NAM. NAM. Retenez ce nom. Le succès de ce projet aidera le monde à progresser dans la phase intermédiaire bipolaire actuelle de la transition systémique mondiale et par conséquent à créer davantage d'opportunités pour d'autres pays de renforcer leur autonomie stratégique dans la nouvelle guerre froide. Le ministre russe des Transports, Valery Saveliev, vient de reconnaître le rôle vital que joue l'Iran pour la logistique de son pays aujourd'hui à travers le corridor de transport nord-sud NSTC. Selon lui, les sanctions sans précédent imposées par l'Occident, dirigées par les États-Unis, en réponse à l'opération militaire spéciale en cours de la Russie en Ukraine, ont pratiquement brisé toute la logistique dans notre pays et nous sommes obligés de chercher de nouveaux corridors logistiques. Fin de citation. Le principal corridor auquel son pays accorde la priorité est le NSTC. À travers l'Iran, soulignant que trois ports de la mer Caspienne servent déjà de voie commerciale avec la République islamique, tout en reconnaissant qu'il reste encore beaucoup à faire en matière de connectivité terrestre. Il avait déjà été prédit peu de temps après le début de l'opération spéciale de la Russie que l'Iran deviendrait beaucoup plus important pour la Russie. C'est parce que le NSTC fonctionne comme un corridor d'intégration transcivilisationnelle reliant la civilisation historiquement chrétienne de la Russie, la civilisation islamique iranienne et la civilisation hindoue de l'Inde. Sans parler des autres comme celle d'Afrique et d'Asie du Sud-Est qui peuvent indirectement être reliées à la Russie par cette route. C'est une soupape irremplaçable contre la pression économique et financière de l'Occident dirigée par les États-Unis qui a créé de telles difficultés logistiques pour la Russie ces derniers mois. D'autant plus qu'elle se connecte à l'Inde qui a défié la pression occidentale en continuant à pratiquer sa politique de neutralité de principe. Sans la participation de premier plan de l'Iran au projet CNTS, la Russie serait coupée de ses indispensables partenaires indiens, dont l'intervention décisive a préventivement évité à la Russie une dépendance potentiellement disproportionnée vis-à-vis de la Chine par la suite. Ce résultat a à son tour aidé le monde à progresser dans le dépassement de la phase intermédiaire bipolaire actuelle de la transition systémique mondiale vers la multipolarité qui a vu les relations internationales largement façonnées par la concurrence entre les superpuissances américaines et chinoises. Il devient de plus en plus possible de parler d'un troisième pôle d'influence représenté par la grande convergence stratégique entre la Russie, l'Iran et l'Inde. Leurs diplomates ne le reconnaissent pas officiellement afin d'éviter que les superpuissances américaines et ou chinoises ne comprennent mal les intentions de leurs états-civilisations, mais tous trois tentent officieusement de constituer un nouveau mouvement des non-alignés. Néo-NAM. Ils espèrent servir de centre de gravités égaux au sein du troisième pôle d'influence qu'ils souhaitent créer pour faire évoluer les relations internationales au-delà de leur phase intermédiaire bimultipolaire actuelle et vers un système de tripolarité qui, selon eux, facilitera inévitablement l'émergence d'une multipolarité complexe. Le but de cette démarche est de maximiser leur autonomie stratégique respective dans le cadre de la nouvelle guerre froide par rapport aux deux superpuissances. Washington envisage de rattacher Lviv et Lvov à la Pologne, comme ce fut le cas après la Première Guerre mondiale. À l'époque, une brève guerre ayant opposé les Ukrainiens aux Polonais pour le contrôle de la Galicie, sur fond d'effondrement de l'Empire austro-hongrois, la Conférence de paix de Versailles et la Société des Nations, SDN, décidèrent de rattacher administrativement cette région à la Pologne pour 25 ans, puis de convoquer un référendum d'autodétermination. L'idée principale était de renforcer la Pologne pour qu'elle fasse barrage à l'idéologie soviétique. L'idée de Washington est aujourd'hui de faire mauvaise fortune, bon cœur, en achevant son allié ukrainien pour renforcer la Pologne, contre la Russie. Considérant la guerre d'Ukraine comme perdue, Washington envisage de reconnaître le rattachement du Donbass, de Mariupol et de la Crimée à la Russie en échange du rattachement de la Galicie orientale à la Pologne. La Galicie occidentale est déjà polonaise. La question d'Odessa et de la Transnistrie reste indécise. L'Ukraine serait réduite à sa portion congrue. Dans cette perspective, le président polonais Andrzej Duda s'est rendu à Kiev et s'est adressé à la Verkhovna Rada. Il a déclaré que l'Ukraine devrait être reconstruite aux dépens de l'agresseur et qu'il n'aurait pas de repos tant qu'elle ne serait incluse dans l'Union européenne. Au-delà de ces belles paroles, il venait s'assurer de ce que deviendrait l'Ukraine une fois sa défaite actée.